France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, André Caplet fait partie de ces musiciens dont le nom est connu, mais la musique peu, voire pas entendue. Il suffit de consulter les programmes de concerts et les publications discographiques pour s'en convaincre. Le plus souvent, il n'apparaîtra que comme l'orchestrateur de la boîte à joujoux ou de quelques mélodies de son ami Claude Debussy. La vie et l'œuvre d'André Caplet, qui fut un chef d'orchestre acclamé et un compositeur original, mérite pourtant bien mieux que l'ombre dans laquelle elle reste encore. Un livre important de quelques 500 pages vient apporter une lumière indispensable qui, espérons, donnera envie aux musiciens de jouer la musique de Caplet et aux mélomanes de la découvrir. Cet ouvrage collectif est co-dirigé par Denis Herlin, mon invité. André Caplet, compositeur et chef d'orchestre, sous la direction de Denis Herlin et Cécile Quesnay, à la Société française de musicologie. Une petite berceuse pour commencer en douceur, c'était un extrait de Un tas de petites choses pour piano à quatre mains d'André Caplet, interprété par Philippe Corr et Édouard Exergent. Bonjour Denis Herlin.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes musicologue et entre autres rédacteur en chef de l'édition de l'œuvre de Claude Debussy, 22e volume avez-vous dit?
Oui, 22e volume sur 37 ou 38, parfois on en rajoute en cours de route, donc j'ai souvent des doutes. Et le dernier volume qui vient de paraître est celui des orchestrations, c'est un volume que nous n'avions pas prévu à l'origine. Puisqu'on s'était concentré sur les orchestrations de Debussy lui-même. Il y en avait un certain nombre, comme les trois valses de François Villon, ou la berceuse héroïque, ou le jet d'eau, des cinq poèmes de Charles Baudelaire. Et puis finalement, en découvrant le fonds d'archives que les éditions Durand ont déposé à la Bibliothèque nationale, on s'est aperçu qu'il avait révisé les orchestrations, notamment de La Petite Suite, d'Henri Busser, et de Printemps. Et l'idée nous est venue d'y adjoindre toutes les orchestrations, finalement, qu'il avait cautionnées de son vivant, et même qu'il avait dirigées. On sait qu'il a dirigé le Children's Corner, par exemple. Et donc, c'est l'objet de ce volume qui comprend donc à la fois donc la petite suite orchestration Busser avec des révisions de Debussy, le Children's Corner, là, sans révision de Debussy parce qu'il était, admiratif de l'orchestrateur qui était André Caplet, des ariettes oubliées, quelques-unes qu'on ne connaissait pas, orchestrées par Caplet pour Boston et pour Mary Garden, et aussi Printemps, orchestration Busser, et en complément, la révision que Caplet avait fait de l'orchestration des cinq poèmes de Baudelaire, du jet d'eau, notamment, de ce jet d'eau. Donc, on aura deux versions du jet d'eau, l'une par Debussy et l'une révisée par Caplet après la mort de Debussy. C'est la seule exception que l'on a faite.
Donc Denis Herlin, Debussy, Caplet, deux noms quand même associés pour l'éternité.
Oui, indissociable, surtout indissociable depuis que Lux Pfizer a fait paraître sa correspondance dans les années 60. Et puis ensuite avec la publication de la correspondance générale où on a pu revisiter toutes ces lettres et aussi grâce à la découverte de nouvelles lettres qui sont maintenant dans ce volume, 10 nouvelles lettres que l'on ne connaissait pas. On avait des extraits dans les journaux après la guerre, mais on n'avait jamais vu les lettres qui sont tout à fait passionnantes, intimes, car c'est vraiment un des rares compositeurs avec lequel Debussy a une profonde intimité.
Alors oublions un temps, si vous le voulez bien, Denis Herlin, Debussy, pour nous concentrer sur André Caplet, qui était plutôt lui le contemporain de Ravel, puisqu'il est né en 78.
Oui, c'est ça.
Mais qui fait un parcours donc brillant hein, de musicien. Il apprend le violon et le piano dans sa ville natale du Havre. Puis après, Conservatoire de Paris et Prix de Rome.
Prix de Rome.
Devant Ravel.
Devant Ravel, ce qui scandalise d'ailleurs un peu tout le monde, parce qu'on trouve que, bon, qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui arrive comme ça, qui n'est pas si talentueux selon certains. Et donc c'est la grande surprise et c'est aussi, je pense, le grand bouleversement de sa carrière, puisqu'il va séjourner à la Villa Médicis et beaucoup s'interroger sur son devenir de compositeur. Les œuvres qu'il compose sont un peu diverses. Il y a des marches un peu triomphantes pour le centenaire de la villa. Il y a des quintettes, des œuvres un peu de facture classique. Je pense qu'il c'est quelqu'un qui cherche, qui s'interroge. Et on n'arrive pas à retrouver précisément, mais on sait qu'il va aller aussi à la fin de son séjour, c'était un peu l'obligation des pensionnaires, qu'il va aller en Allemagne pour suivre des cours de direction d'orchestre et voir comment les gens dirigent.
Et pas auprès des plus mauvais chefs d'orchestre.
Non, des grands chefs d'orchestre, donc allemands, comme Nikisch par exemple.
Nikisch et Mottl, oui, c'était vraiment
voilà,
les grands.
Et Mottl qui est extrêmement francophile, qui dirige beaucoup d'œuvres françaises. Donc là, on sait qu'il le met, on n'a pas réussi à avoir des preuves extrêmement tangibles, mais on sait que ça existait. On aurait voulu avoir plus d'éléments sur cet aspect un peu obscur de la carrière de Caplet.
Alors, Denis Herlin, votre livre est un ouvrage collectif qui réunit une quinzaine de musicologues.
C'est ça.
Sous votre direction et celle de Cécile Quenet. Organisé en quatre parties. D'abord un peu l'œuvre, la biographie plutôt, l'œuvre,
ça,
et
oui.
Puis après des documents, puis une analyse de quelques œuvres phares de la musique d'André Caplet. Le titre, compositeur et chef d'orchestre. Alors, est-ce que ça signifie, Denis Herlin, que Caplet n'a jamais voulu choisir, qu'il a toujours voulu mener en parallèle les deux carrières, les deux métiers, j'ai envie de dire, de musique.
Je dirais que c'est toute l'ambiguïté de Caplet. Hein. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre qui est un peu... Bon, on dirait, bon, ils ne sont pas quand même foulés pour le titre. C'est un peu banal, compositeur, chef d'orchestre, pourquoi pas chef d'orchestre et compositeur. Eh bien, justement, c'est parce que c'est tout le dilemme de Caplet, cette hésitation permanente entre sa carrière absolument flamboyante de chef d'orchestre, hein, on peut le dire, oublié, bon, on verra pourquoi tout cela est oublié, et de compositeur. Il y a une espèce de déchirement intime. Est-ce qu'il doute de son métier de compositeur? Est-ce qu'il veut se démarquer? Souvent, on l'a considéré comme un épigone de Debussy, alors que c'est quelqu'un qui a son propre langage, même s'il connaît intimement l'œuvre de Debussy. Donc voilà, c'est tout ce dilemme qui est là et qui est sous-jacent et qui le torture fréquemment.
Thank you.
Simon Rattle à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était le sommeil de la boîte, le début de la boîte à joujoux de Claude Debussy, orchestré par André Caplet de Nierlin. Décidément, on y revient toujours à Claude Debussy, mais on va écouter après quand même de la musique de Caplet. Alors, vous nous avez parlé de sa carrière de chef d'orchestre. Vous avez dit chef acclamé, reconnu en son temps, mais aujourd'hui un peu oublié comparé à des Engelbrecht, à des Ansermet, ou d'autres chefs qui défendaient, entre autres, la musique française, mais pas que.
Oui, ou Gabriel Pierné.
Oui, voilà, simplement. Exactement. Oui.
Bah, il faut dire que le problème de Caplet, c'est qu'il est mort en 25 et il est mort au début.
Il a 46 ans.
C'est ça, au début des enregistrements discographiques. Donc, déjà, on n'a pas de témoignages discographiques, malheureusement. Hein.
C'est vraiment dommage.
C'est un grand manque, une grande lacune. Et je pense que si Caplet était mort, mettons, en 35, 40 ou 45, il n'aurait pas du tout la même place dans le panorama la musique française, à la fois comme chef d'orchestre, mais aussi comme compositeur.
Ouais.
C'est un homme qui va faire quand même une carrière assez fulgurante. C'est très curieux la carrière de Caplet, parce que c'est un personnage un peu obscur. On peut dire qu'il a énormément de réseaux. Hein, au début, il est d'une famille extrêmement modeste, un peu pauvre. Hein. Mm-hmm. Il y a le prix de Rome, évidemment, qui le met sur le devant de la scène. Il y a surtout, je pense, la rencontre avec Debussy au moment où... Et le tournant décisif, c'est quand même le martyr de Saint-Sébastien.
Dont il assure la création,
mais aussi dont il assure une partie de l'orchestration sous la direction de Debussy. Parce que Debussy, le défi de Debussy, c'est qu'en décembre 1910, on lui dit « Allez, mon cher ami, voici le martyr, voici 20 000 francs or. Si vous ne le faites pas, vous les gardez. » Ça arrangeait bien Debussy, il était à ce moment-là très démuni. Il se dit, alors tout le monde faisait des paris en disant il n'y arrivera jamais, parce que c'était pour mai 1911.
Effectivement, ça fait court. Ouais, ouais.
Et donc finalement, il compose la musique, bien sûr, et il se fait aider pour l'orchestration de Caplet, comme en témoigne le manuscrit. D'ailleurs, c'est pas toujours évident de savoir, on a eu des doutes parfois, de savoir ce qu'était Caplet de Debussy, parce que la main est assez proche.
Ah, oui.
Finalement, on a réussi à déterminer. Et donc, c'est ça qui va évidemment le mettre sur le devant de la scène, même si le martyr n'a pas le succès escompté, mais on apprécie ses qualités, ce magnétisme dont parle tous les témoignages, cette force, cette conviction. Et finalement, le bouleversement de sa carrière, c'est qu'il est nommé à l'Opéra de Boston pour un chef français. Donc il fait une carrière à l'étranger, une carrière américaine. D'ailleurs, il n'en revient pas. Il écrit à sa mère, c'est dingue. J'ai un grand bureau, j'ai jamais eu un bureau comme ça. Son truc, c'est quasiment une voiture avec chauffeur. Je ne sais plus si il dit ça, je ne crois pas. Mais enfin, c'est de cet ordre-là. C'est tout le luxe à l'américaine, vous imaginez, pour un chef d'orchestre issu d'un milieu extrêmement défavorisé.
Ah oui, donc il est à Boston entre 1910 et 1914.
14.
Et là, il dirige quand même un répertoire assez large, mais quand même très français.
Il y a beaucoup
de Massenet, Carmen. Ah,
il défend la musique française, c'est son but. Les Crocodiles empaillés, comme dirait Debussy. Donc, comme à propos de Saint-Saëns. Et donc, oui, il promeut la musique française. Pélias et Mélisande est donné.
Bien sûr,
c'est son activité, c'est défendre la musique française et de l'installer dans le répertoire de l'Opéra de Boston, ce qu'il fait avec grand succès. Et le tournant de sa carrière, c'est quand il revient à Paris et qu'on lui propose la direction de l'opéra. Et c'est le début de la guerre. Donc c'est là où les événements de la vie bouleversent vos plans de carrière.
Bien sûr. Ouais.
Rouchet lui propose la direction de l'opéra et lui, il est nommé au front.
Et alors, est-ce que ce fait historique va freiner, si ce n'est interrompre sa carrière de chef d'orchestre pour l'orienter davantage vers celle de compositeur? Comment est-ce que ça se passe, Denis Herlin?
Bien, on peut dire que durant la guerre, il va continuer à composer, mais après la guerre, c'est surtout à nouveau la carrière de chef d'orchestre qui va reprendre le dessus avec un certain nombre d'œuvres qu'il dirige. Et ce qui est assez fascinant dans le cas de Caplet, donc comme chef d'orchestre, et qu'il faut souligner, c'est que c'est un avant-gardiste. Hein. En gros, si vous voulez, pour employer une image extrêmement grossière, c'est un peu le Boulez du temps quelque part. ça vous fait rire, mais il va quand même diriger les 5 pièces pour orchestre de Schoenberg. À l'époque où finalement c'est quand même pas si évident, il avait des projets sur Bartok, enfin donc tout ce qui est musique, je dirais, de son temps, Caplet veut la promouvoir et veut la défendre coûte que coûte.
Il la dirige et il l'écoute aussi, je crois.
Il l'écoute aussi. Oui. Non, il s'intéresse aux œuvres de Schoenberg, de Bartok, de tous ses contemporains et il veut s'engager là-dedans. Donc il y a toujours ce désir de faire connaître, de diriger les œuvres d'orchestre, comme il dirige admirablement les œuvres de Debussy, et en même temps, cette hésitation sur sa carrière, et à un moment donné, d'ailleurs, il la freine. C'est au moment où il commence la composition de ce qui va être un petit peu, il y a deux œuvres majeures, Le Miroir de Jésus et le concerto pour violoncelle aussi, Épiphanie, qui est une œuvre importante.
Marie-Claude Chappuis, le Quatuor ciné nominé sous la direction de Jean-Claude Fazel. C'était un extrait du Miroir de Jésus, très exactement, le Couronnement d'épines, une œuvre de 1923 d'André Caplet du Nierlin. Vous nous avez dit que ce Miroir de Jésus était une des œuvres phares et fortes d'André Caplet. C'est vrai que c'est une musique quand même assez austère, mais d'une austérité très, très éloquente, très marquante, très profonde.
Oui, il y a une dimension mystique, religieuse, sans être vraiment d'un catholicisme.
C'est pas sulpicien.
Non, pas du tout. C'est vraiment une intime conviction par rapport à la religion. D'ailleurs, il y a un très beau texte sur les rapports de Caplet et la religion. C'est pas quelqu'un de dogmatique, mais c'est quelqu'un qui a une croyance profonde, très ouverte. Et ce Miroir de Jésus, c'est un peu, si vous voulez, par rapport au martyr de Saint-Sébastien, où Debussy aussi avait une espèce d'émotion au moment de la passion de Saint-Sébastien, je pense qu'il y a une idée commune sur cette passion du Christ que Caplet essaie de transcender avec une orchestration très très particulière, puisqu'on a un quatuor ou un orchestre à cordes et des harpes et des voix. Et donc même des passages en Orange-Presse Gesang aussi. Oui, oui. Et donc c'est une œuvre sur un texte de Guéon qui essaie de dégager cette émotion, ce sentiment religieux intense et profond qui fait que c'est vraiment peut-être le chef-d'œuvre d'André Caplet. Malheureusement, peut-être, je veux dire, on aurait aimé qu'il y en ait d'autres. Mais c'est sûr que la formation, le thème religieux, a peut-être été pas aussi porteur que l'aurait été une grande œuvre d'orchestre qu'on n'a pas.
Et c'est ce que j'allais vous dire, justement. Vous avez deux questions. Vous avez mentionné à l'instant de Nierlin la harpe, instrument oui. pour lequel Caplet a pas mal écrit.
Ah, énormément.
Oui.
Énormément. C'est curieux, mais il était, je crois, très intéressé par la sonorité de la harpe. Alors d'abord, il y a ce conte fantastique dans les années 1908 qui est créé pour un instrument que tout le monde a oublié, qui est la harpe chromatique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, la harpe chromatique, en gros, c'est un instrument, si vous voulez, pour résumer par rapport à la période, c'est un instrument qui est beaucoup plus facile pour les accords, mais comme dit Debussy très justement, parce qu'il a écrit aussi les danses sacrées profanes, il trouve que cet instrument ne sonne pas. C'était une espèce de concurrence entre deux films, entre Pleyel et Erard. Et donc, Pleyel essaie de défendre, Pleyel, c'est Gustave Lyon, c'est un ingénieur qui est à la tête de cette firme et qui essaie d'inventer des instruments nouveaux, comme il va moderniser le clavecin de Wallandowska, il invente cette harpe. Et la dernière enseignement qui existe de ces harpes chromatiques était dans les années 80 au conservatoire de Bruxelles. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est terminé. Et donc, il va retransformer l'œuvre et la transformer pour une harpe à pédales qui sonne beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'il a une fascination pour cet instrument et aussi pour les voix. Les voix le fascinent. Il veut triturer, façonner. On raconte qu'en répétition, il faisait parfois pleurer des chanteuses parce qu'il essayait d'extraire de leur présence, de ce qu'elles chantaient, une espèce d'aller au-delà des mots. Et donc, c'est là aussi une œuvre parfois où il utilise des choses sans voix, comme dans le pain quotidien, qui sont des exercices à la fois vocaux, mais qui vont bien, bien au-delà. Donc, il y a toujours une espèce d'attrait pour des choses. La voix, donc, beaucoup de mélodies. Malheureusement, la mélodie, c'est pas forcément le domaine qui fait connaître le plus un compositeur. Des œuvres pour harpe, d'œuvres d'orchestre finalement. Qu'est-ce qu'on a ? On a eu de quelques œuvres de jeunesse, mais surtout le concerto. Et donc, ce qui explique cette figure, et pas de grandes pièces de piano.
Oui, c'est ça, pas de grandes pièces de piano, pas de grands quatuors à cordes, pas de grandes sonates pour piano et cordes ou vent.
Il y a une sonate, mais bon, elle est inédite. Il faudrait l'éditer pour voix et violoncelle. Là aussi, des recherches de timbres très très et très dans l'idée de Debussy d'ailleurs, hein, c'est vraiment aussi une idée extrêmement debussiste. Et donc on n'a pas, un grand cycle de piano comme les Miroirs, comme Jadot ou comme les Préludes de Debussy, et une œuvre d'orchestre comme le Prélude ou comme d'autres œuvres de Ravel. Donc voilà, c'est ce qui fait que Caplet est méconnu. Thank you.
Frédéric Lodéon, violoncelle, l'orchestre Philharmonia, dirigé par Charles Dutoit. C'était la fin de l'épiphanie d'André Caplet, Danse des Petits Nègres, une œuvre de 1923. Denis Herlin, une œuvre là aussi très originale, très différente de ce qu'on a pu entendre avant, qui date de la même époque, Le Miroir de Jésus, mais totalement différente.
Oui, parce qu'on a un premier mouvement, bon, classique, classique, pas classique dans l'écriture, mais ce qui est étonnant, c'est la cadence du milieu.
Oui.
Cette cadence où on a une longue improvisation violoncelle sur un fond de percussion. Là aussi, c'est un choix très, très, très original et très novateur.
On parlait, je parlais en introduction, Denis Herlin, finalement de la quand même rareté, il faut bien le dire, de la musique de Caplet, aussi bien au disque, à part une ou deux œuvres, dont le Conte fantastique pour harpe, et aussi au concert et au disque. Est-ce que sa musique est éditée largement, facilement accessible, ou est-ce qu'il reste encore des œuvres qui sont restées à l'état de manuscrit qu'il faudrait éditer, publier?
Alors d'abord, l'œuvre est éditée par Durand. Hein. Durand a été l'éditeur principal. Bon, il y a eu quelques œuvres chez Hurstel, un éditeur avrai, mais c'est Durand qui a l'essentiel des œuvres de Caplet. Alors, à la Bibliothèque nationale, il y a une histoire curieuse qui est liée, je veux dire, au legs Caplet. C'est qu'il y a un certain nombre, effectivement, de manuscrits, comme une sonate.
Le legs a été fait de
plusieurs manières. D'une part, par quelqu'un qui a travaillé avec Caplet, qui s'appelait Yvonne Gouvernet.
Chef de chœur,
mmh. Et qui a vraiment eu ce culte de Caplet, qui était très lié à sa femme Geneviève. Et donc, au moment de la mort d'André Caplet, elle a recueilli une bonne partie de documents, dont des choses extrêmement précieuses, je pense, à une partie de la Damoiselle élue corrigée la main de Debussy, avec pas mal d'annotations très précieuses. Et puis des œuvres de Caplet, des manuscrits, de la correspondance. Et d'autre part, le fils de Caplet, le seul qu'il ait eu, Pierre, avait aussi un certain nombre de documents. Une partie a été donc léguée, donnée par Yvonne Gouvernet dans les années 60-70, au moment où elle va décéder. Et d'autre part, la Bibliothèque nationale a acquis une partie du fonds Caplet, il y a de Pierre Caplet, et l'autre a été aussi à la Bibliothèque du Havre. Il y a eu une espèce de scission, mais la Bibliothèque nationale a la plupart des manuscrits de Caplet. Il reste encore quelques manuscrits dans des collections particulières, ça existe, nous en avons reproduit un ou deux d'ailleurs. Mais l'essentiel du fonds est là, et ne demande qu'à être accessible aux chercheurs. Il n'y a aucun problème pour étudier, regarder les œuvres que Caplet a laissées. Certaines sont... pas complètement inachevé, mais bon, peut-être pas complètement abouti, mais il y a des œuvres tout à fait originales. Je pense à cette sonate, donc pour violoncelle et voix.
Très bien, merci beaucoup Denis Herlin. Je rappelle le titre de votre livre dont vous avez assuré la co-direction scientifique avec Cécile Quenet, qui vient de paraître à la Société française de musicologie, André Caplet, compositeur et chef d'orchestre. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Andrea Rock, à la technique Pierrick Charles, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.